Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5. Ensuite, nous prendrons Jean 10 et 10. Deux versets classiques, parmi les plus connus de chaque enfant de Dieu. De ces deux textes, pris dans leur contexte, nous allons apporter un enseignement qui, je crois, va être pour chacun d'entre nous une énorme bénédiction. Merci pour ces quelques amens. Amen. On va lire ensemble 2 Corinthiens 5 au verset 17. On y va. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Père, je veux te rendre grâce pour le privilège qui, ce matin, ce jour, nous est donné d'écouter ta parole. Merci pour la vie que ta parole contient. Merci pour la lumière qu'elle apporte. Merci pour la puissance qu'elle libère. Que ton nom soit célébré. Ô Père, je demande que tu accordes à toute personne qui entend le son de ma voix, d'avoir accès par ton esprit à la révélation de ta parole, afin qu'illuminée, transformée de l'intérieur, chaque personne puisse marcher dans la pleine liberté et expérimenter jour après jour la délivrance et la victoire par la foi. Béni sois-tu, Seigneur, que ton nom soit honoré, que ton nom soit exalté, que la gloire et l'honneur te soient rendus aujourd'hui et à jamais. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Et que quelqu'un me donne trois bons amens trois fois.
Amen, amen, amen.
Il y a dit trois bons amens trois fois.
Amen, amen, amen.
Et la troisième fois.
Amen, amen, amen.
Alléluia, tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Amen. Alléluia. Vous savez, le petit mot « Amen » est d'une grande importance. Hein? « Amen » veut dire « Ainsi soit-il ». Que quelqu'un dise encore « Amen ».
Amen.
Alléluia, ce n'est pas le féticheur du village qui a parlé. Quand Dieu envoie un messager et qu'il parle, tu ferais mieux de dire «
Amen ».
Alléluia, amen, amen, amen. Alors, la semaine passée, nous avons commencé un enseignement. Et j'aime bien enseigner parce que j'ai découvert dans ma marche avec Dieu que toute connaissance dans le royaume est précédée, toute abondance dans le royaume est précédée par la connaissance. Et toute connaissance, d'accord, précède une abondance. Donc si je veux avoir de l'abondance, quel que soit le domaine où je recherche la provision, la connaissance est indispensable. C'est dans ce sens que Jésus a dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Car celui que le Fils affranchit, celle qui est affranchie par Jésus, est véritablement libre. Est-ce que je peux voir la main de ceux qui prétendent être libres ce matin? Alléluia. Amen. Amen, t'es libre. Amen, lève bien ta main et dis, je suis libre. Encore, je suis libre. Amen, ça veut dire que même au niveau de tes dettes, tu es libéré. Amen. Amen, il faut dire je suis libre. D'accord? D'abord, amen, amen. C'est très important. C'est très important. Donc, ce matin, je vais continuer sur le message expérimenter la délivrance par la foi. Une expérience personnelle de la délivrance par la foi. Ça veut dire qu'après ce message, face à tous tes combats de la vie, la délivrance sera ton partage.
Amen.
T'as pas compris de quoi je parle?
Amen.
Faut dire un bon amen.
Amen.
Dans ce message, n'est pas juste ton message, mais ce sont des paroles de Dieu relâchées dans ton esprit qui vont changer l'atmosphère sous laquelle tu opères.
Amen.
et te permettre justement d'expérimenter quotidiennement la liberté en Christ. C'est la raison pour laquelle je voudrais que chacun d'entre nous s'attende, je dis bien s'attende, à l'intrusion du surnaturel dans son quotidien.
Amen.
Amen. Afin que le miracle ou les miracles deviennent des choses courantes dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu.
Amen.
Amen. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, si, conditionnel, si quelqu'un est en Christ. Ça veut dire que l'apôtre Paul savait qu'on peut être à l'église sans être en Christ. Il dit si. Si. Si quelqu'un est en Christ, ok? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Eh bien, nous avons vu que quand quelqu'un naît de nouveau, son esprit est récréé, régénéré, au niveau de l'esprit. Parce que l'homme est tridimensionnel. Chaque être humain est un esprit ayant une âme vivant dans un corps. Donc il y a trois dimensions de ton être. D'accord ? Il y a la dimension de l'esprit. Quand tu es né de nouveau, ton esprit se régénère. Ton âme doit subir la transformation. Donc, ça veut dire que ton âme reste identique. Ensuite, ton corps continue de porter ton esprit et ton âme comme si de rien n'était. Mais le plan de Dieu, c'est que la lumière qui a pris place en toi, dans ton esprit, jaillisse jusque dans l'âme et traverse ton âme pour se répandre jusque dans ton corps et affecter tout ce qui est rattaché à ton existence. Je déclare sur ta vie que cela sera ton partage.
Amen.
Amen. Amen, c'est très important. Donc, quand on dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, qu'est-ce qui devient nouveau? Ce qui est nouveau, c'est ton identité. D'accord? Tu changes d'identité auquel tu es récréé. Ton esprit n'est plus le même. C'est ton esprit qui devient une nouvelle création de Dieu. Tu passes de la mort à la vie. Tu reçois la vie de Dieu. Tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu deviens fils de Dieu, fils d'Abraham. Tu as un héritage en Christ. Ça, ce sont des choses qui deviennent nouvelles. Malheureusement, ces nouvelles choses ne sont pas physiquement visibles. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas physiquement visible que cela n'existe pas. Qui respire en ce moment? Qui voit l'air? Ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'air que l'air n'est pas là. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Mais ensuite, quelles sont les choses, d'accord, qui anciennes qui passent? La mort. Tu n'es plus mort. La condamnation éternelle. Avant d'avoir rencontré Christ, si tu mourais, tu allais en enfer. Oh, dis amen.
Amen.
Alléluia. Eh bien, il faut être heureux d'avoir son nom écrit dans le livre de vie. Ça, c'est un grand, grand sujet de joie pour moi. D'accord? Tu ne vas plus en enfer. Et ensuite, les malédictions. Ton père, ta mère, ton grand-père, tes aïeuls pouvaient être maudits jusqu'à tremper même dans la marmite de la malédiction. Mais toi, tu en es totalement délivré.
Amen.
Donne-moi un bon amen.
Amen.
Ça a plus de pouvoir sur toi. Amen. C'est pourquoi, d'accord, tu as le passeport légal pour aller au village, revenir et repartir sans problème. Parce que tu es immunisé contre les puissants des ténèbres. Dis amen.
Amen.
D'accord, donc, ton appartenance au règne de Satan est terminée. La domination des ténèbres est arrêtée. C'est une réalité, bien-aimé. Ce sont des vérités que nous avons. Et nous devons les découvrir, expérimenter en Christ. Cependant, je voudrais que tu saches, vraiment avec ton cœur, que la nouvelle naissance te positionne sur la rampe d'attaque de l'ennemi. C'est-à-dire que tu deviens la cible de Satan. Chaque fois que quelqu'un donne sa vie à Jésus, le diable inscrit son nom sur le tableau des personnes à pourchasser. Vous voyez? Donc, le diable ne te laissera pas partir aussi facilement que tu le penses. Mais ça, ce n'est pas un problème. Ça fait partie du plan de Dieu. pour que tu deviennes témoin toi-même de la grandeur de celui qui t'a libéré. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis à ton voisin, sois serein, Dieu au contrôle. Amen. Malheureusement, beaucoup de personnes sont libérées par Dieu, mais ne savent pas quel est le Dieu qui les libère. Il faut connaître Dieu. D'accord? Le diable va t'attaquer. La Bible dit, si quelqu'un a 100 brebis, d'accord? Et qu'il perd une, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les 99 et il va chercher la brebis égarée. Vous savez que le royaume des ténèbres est bâti sur la falsification du royaume de Dieu? Et que même quand le diable perd une brebis, il laisse les autres pour le poursuivre? Donc la raison pour laquelle il te pourchasse, c'est parce qu'il t'a perdu. Mais je... Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen! Mais je déclare sur ta vie qu'il ne t'atteindra pas. Amen, amen, non, 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 il ne t'atteindra pas. Bien aimé, dans l'ancienne alliance, nos pères sont sortis d'Égypte. 600 chars scellés par Pharaon à leur poursuite. Notre Dieu a dévissé les roues des chars par ses anges. Il les a engloutis dans la mer Rouge. Il est anormal que tes acharyants continuent éternellement de te pourchasser. Je déclare sur ta vie que leur engloutissement n'est pas loin. Au nom de
Jésus.
Au nom de
Jésus.
C'est très important de le comprendre. Ils te pourchasseront, mais ils ne t'atteindront pas.
Amen.
Amen. Donc c'est important, bien-aimé. Et c'est pourquoi je voudrais que chaque enfant de Dieu laisse le diable tranquille et permette à Satan de jouer son rôle. S'il ne joue pas son rôle, nous allons cesser de voir la grandeur de notre Dieu. Comment verrez-vous la lumière s'il n'y a pas de ténèbres? Vous levez les mains pour dire, oh l'Éternel est l'Éternel qui guérit. Mais comment tu vas expérimenter la bonté de la délivrance de la maladie si tu n'as pas été malade? Oh, je me rappelle les cantiques sortis de ma bouche quand on a détecté que mon cœur était mal formé. Et qu'on m'a dit qu'il fallait qu'on me fasse assister le cœur. Par un pacemaker. Je suis rentré chez moi. Deux semaines après, je devais repasser pour la visite. Sous ma douche, j'ai commencé à chanter des cantiques à mon roi. Je suis reparti deux semaines exactement après. Quand ils ont regardé mon cœur, c'était un témoignage incroyable. Mon cœur était devenu plus que normal par la puissance de Dieu. Amen. Bien-aimés, ces choses arrivent pour que nous témoignions. La Bible dit, Jean 10:10, le voleur, Dieu ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Dérober, égorger, c'est sa mission. Il vient dérober tes promesses, essayer de dérober ta joie, dérober tes ambitions, dérober tes rêves. Dérober tes promesses, dérober tes attentes, égorger. Oh, ce mot qui pendant longtemps m'a dérangé parce que j'avais l'impression qu'il n'était pas totalement à sa place. Parce que dérober, égorger et détruire. D'accord? Le mot égorger, en fait, vient du mot tuer. Dans la version Darby, c'est égorger, tuer et détruire. Ça veut dire quoi? Quand le diable vient dans ta vie, il va d'abord essayer de voler. Tu vois ton argent se perd, ta joie se perd, les choses se perdent. Et toi, tu te dis, peut-être c'est pas grave. Mais le but de Satan n'est pas de voler. Il veut détruire, c'est-à-dire t'amener à la mort. Il entre pour te tuer. Non, non, il vient pas pour voler ton argent, mais pour te tuer. Quand les problèmes de mariage commencent, c'est pas au mariage qu'il s'attaque, c'est à votre vie. Il veut te tuer et après te tuer, détruire tout ce qui est rattaché à ton existence. C'est-à-dire si tu as des enfants. Les enfants de tes enfants, ils veulent détruire tout ce qui est rattaché à toi. Amener tes maisons à tomber en ruine. Tes plantations à ne pas produire. Ton travail, pas d'avancement. Ils veulent paralyser tout ce qui est à toi. Mais je déclare sur ta vie qu'il est ton menteur. Amen. Dis encore amen.
Amen.
Ne vous arrêtez pas au nom voleur, parce que le voleur s'appelle aussi le menteur. En ce qui te concerne, il ment. Pour les païens, il vole. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Parce que la Bible dit « mais ». Oh, dis après moi « mais ». Encore « mais ». Encore « mais ». Ce petit « mais » là, il est très, très, très important. « Mais je suis venu ». Dis « heureusement Jésus est venu ». Encore « heureusement Jésus est venu ». Vous ne pouvez pas contrecarrer Satan sans Jésus. Impossible. Les gens qui essayent de se protéger sans Jésus ne font que compliquer leur sort. Tu ne peux pas te protéger du diable sans Jésus. Jésus est la seule barrière qui nous rend infranchissables, c'est-à-dire par laquelle on n'est pas atteignable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu n'as pas Jésus, quels que soient les fétiches, les doudous, les canaris, les etc. qu'on fait sur ta vie, c'est du pipeau, c'est zéro, ça ne marche pas. Amen. Mais il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle soit. Oh, j'aime bien. Aient la vie et qu'elle soit. C'est-à-dire, ce n'est pas la vie, la finalité. Donc la vie est donnée pour que l'abondance soit en partage. Mais si le voleur vole, il n'y a pas d'abondance. C'est quand on arrête de voler que l'abondance est possible. Si vous épargnez tout le temps sous tir, vous ne pouvez pas avoir l'abondance. L'abondance, c'est quand vous réussissez à garder dans les greniers. J'annonce sur ta vie que l'abondance sur la terre sera ton partage au nom de Jésus. Dis encore un bon amen.
Amen.
Dis encore un bon amen.
Amen.
Je profite pour adresser ce message à ceux qui me courent de très loin. Certaines personnes qui ont reçu le virus de la corruption dans la compréhension des Écritures. Bien aimé, Dieu a dit qu'il veut qu'on soit dans l'abondance. L'abondance, c'est l'abondance. Ça veut dire, si tu as 2 maisons, je prophétise que tu en auras 10.
Amen.
Dieu n'a aucun problème. Si tu as 2 millions, j'appelle 2 milliards.
Amen.
Donne un bon amen. L'abondance n'a pas de limite. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas de limite. Donc Dieu n'a aucun problème que tu roules en jet, en Rolls Royce, ou que tu es en jet privé. Est-ce que vous comprenez?
Amen.
Merci pour cette amen isolée.
Amen.
Quand je dis que tu es en vélo, il y a des gens qui ont dit amen, c'est ta foi. Dis amen si c'est ta foi.
Amen.
Avoir un vélo. Avoir une moto. Avoir une belle voiture.
Amen.
Alléluia. Qu'il soit fait à chacun selon sa foi, n'est-ce pas?
Amen.
C'est très important. Donc il n'y a rien de païen que d'avoir l'abondance.
Amen.
Amen. Ne soyez pas comme... Non, passons à autre chose. Alors, vous voyez, c'est important de comprendre les desseins de Dieu pour nous. Le diable veut dérober. Bien-aimés, nous vivons dans un royaume en guerre. Je dis bien, notre royaume est en guerre. L'apôtre Paul nous compare à des combattants. Le combat de la foi. Nous sommes en guerre. Que tu le veuilles ou non, tu es la cible de l'enfer. Donc, si tu te tais, le diable prendra avantage. Il faut que tu réagisses. Et je vais te montrer comment tu dois préparer ton âme face à ce combat, afin que tu aies toujours la victoire. Je dis bien, toujours la victoire sur tes ennemis. Dis amen.
Amen.
Première chose qu'il faut réaliser, oh bien-aimé, première chose qu'il faut réaliser, il faut prendre conscience de la vie qui est en toi. Lève ta main droite, dis,
j'ai la vie de Dieu en moi.
Encore, j'ai la vie de Dieu en moi. Bien-aimés, car la Bible dit que nous sommes passés de la mort à la vie, c'est très important de réaliser que nous avons la vie. Jean 10:10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. La vie de Dieu qui est en toi n'offre au diable aucune possibilité de voler quoi que ce soit qui soit rattaché à ta personne. La vie de Dieu t'immunise contre les œuvres des ténèbres. Tu es protégé contre l'assaut du malin. Si tu as conscience de cette vie en toi. Cette vie, c'est le Zoé. C'est le type de vie de Dieu qui est en toi. Amen. Cette vie te garde et te protège. Il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience. Le diable fera tout pour t'empêcher de garder en toi la conscience de la présence de cette vie que le ciel t'a donnée. Mais toi, souviens-toi de nuit comme de jour que la vie de Dieu est en toi. D'accord? La vie de Dieu est en toi. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut constamment se rappeler les bienfaits du Seigneur. Vous voyez, l'âme qui n'arrive pas à se souvenir des bienfaits devient une âme qui manque de, qui n'est pas gracieuse. D'accord? C'est très important de se souvenir des bienfaits de l'Éternel. Lamentation 3, versets 21 à 26. Voici ce que je veux repasser à mon cœur et qui me donnera de l'espérance. Vous voyez? Donc je choisis les choses que je repasse à mon cœur et qui me donnent de l'espérance. Lamentation 3, 21 à 26. je repasse dans mon cœur. J'ai choisi de repasser. Ça veut dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui me rappelle ces choses. Parce que certains d'entre nous, ils pensent qu'il faut que ce soit le Saint-Esprit qui leur rappelle ces choses. Non, tu prends la décision de te le rappeler à toi-même. Alors comment je fais? Je prends un carnet où je consigne les bienfaits de l'Éternel. D'accord? Les bienfaits de l'Éternel. Et si même ce que vous avez, homme ou femme, ne faites pas comme certaines femmes dans leur mariage qui ont des carnets pour consigner les mauvaises choses de leur mari. Non. Consigner les bonnes choses. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Regardez ce que Lamentation dit au verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu était bon avec toi une seule fois, le stock de bonté n'est pas épuisé. Quelqu'un dise Alléluia. Quelqu'un dise Alléluia. Amen. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ça veut dire qu'il continuera d'être compatissant. Bien-aimé, on parle de compassion quand il y a détresse. On parle de compassion quand la personne est en problème. Mais il faut te rappeler dans ton âme que l'Éternel ne te laissera jamais dans le problème. Sa compassion. Parce que la compassion appelle l'action. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Je me souviens dans ma marche avec Dieu, la première qualité de Dieu que j'ai connue, c'était sa fidélité. Et c'est pour ça que certaines personnes me taxent d'être un prédicateur de la foi. Peut-être suis-je un, mais j'ai découvert que chaque personne devra vivre par la foi. D'accord? Et la parole que nous prêchons est une parole de foi. Mais j'ai connu sa fidélité. Bien-aimé, qu'est-ce que c'est la fidélité de Dieu? Ce qu'il dit, il accomplit. Il dit, quand moi qui ai commencé cette belle œuvre dans votre vie, je serai là, parfait. Donc quand je me souviens des bienfaits de Dieu, je me rappelle tout de suite que s'il a commencé quelque chose, quel que soit ce qui m'arrive, il sera parfait ce qu'il a commencé. Je ne peux pas avoir pris une maison, l'avoir pris pour en faire un temple, pour qu'après les démons en fassent leur résidence. Non, il ne peut pas t'avoir choisi pour te laisser à la merci des puissants des ténèbres. Il n'y a aucun démon qui soit autant démon ou qui soit plus fort que la puissance de Dieu. Laisse-moi te dire que tu es un territoire protégé. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Je dis que tu es un territoire protégé. Tu es une ambassade vivante, le septième tabernacle de Dieu dans cette dispensation. Que quelqu'un comprenne de quoi je parle. Alléluia. L'un des rares endroits de cohabitation de Dieu sur la terre avec l'homme, ton corps. Quelle merveille! Rappelle-toi ses bienfaits. D'accord? Rappelle-toi à la maison. Regardez ce que David a fait quand il était face à Goliath. Bien aimé, les combats de la vie, vous les aurez. Amen. Ce n'est pas une mauvaise prophétie, c'est une bonne. Tu auras des combats. Pourquoi tu es silencieux? Tu auras des combats. Ça, c'est en fait. Plus ton élévation est appelée à être grande, plus tes combats seront énormes. Nos combats sont révélateurs de notre destinée. Mais je décrète sur ta vie que comme ton pasteur, tu en sortiras vainqueur. Donne-moi un bon amen. Donne-moi encore un bon amen. Alléluia. Un jour, un pasteur est venu me voir dans mon bureau et il m'a dit, homme de Dieu, est-ce que tu sais que les hommes de Dieu sont mis ensemble et certaines personnes vont jusqu'au point de dire que si tu meurs, on aura rendu un service à l'évangile. Dans mon bureau, ici en Côte d'Ivoire, il a commencé à citer certains noms que vous connaissez. Et je lui ai dit, pasteur, aussi longtemps que Dieu m'a appelé, le Dieu qui a été avec moi, le Dieu qui m'a délivré des militaires qui sont venus me chercher, le Dieu qui m'a délivré du poisson, le Dieu qui était avec moi, ce Dieu-là est encore ici. J'ai été envoyé du ciel sur la terre. J'ai été balancé ici par le ciel. Et personne ne pourra faire quoi que ce soit. Est-ce que vous me comprenez? Bien-aimé, il faut faire attention, on va t'empoisonner. J'ai dit, il y a des gens qu'on empoisonne, il y a d'autres qu'on n'empoisonne pas. Raoul Wafo ne meurt pas de poison. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut souvenir les bienfaits de l'Éternel. Ne permettez jamais à Satan de vous intimider. Vous n'êtes pas intimidable ni manipulable. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Chaque fois, amen, chaque fois que vous vous rappelez le bienfait de Dieu, vous engagez le ciel. Vous engagez le ciel. Je ne dors jamais dans la terreur. Jamais. Jamais. Je ne fais pas de combat la nuit. Oh, esprit de méchant, sortez de ma chambre. Oh, esprit, je coule. Non. Jamais de la vie. Demandez à ma femme. Je ne connais pas ce genre de combat. Jamais. Amen. Non, je n'ai pas ce genre de battre. Non, non, non. Ma révélation me permet d'être dans la suffisance. La protection extrême. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le juste se couche et il s'endort. Et son sommeil est reposant. Même couché, vous me regardez, vous parlez en langue. Il n'y a pas de regard, non. Calme, serein, dans sa présence. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je déclare sur ta vie la paix totale au nom de Jésus. Dis amen. Il faut te rappeler les bienfaits de l'Éternel. David devant Goliath, il a dit, j'étais dans la brousse, j'ai vu Dieu me délivrer de l'ours et du lion. Ce même Dieu sera avec moi face à ce Goliath. Bien-aimé, ne pensez pas que Dieu vous met face à sa parole et ne la respecte pas lui-même. Au premier culte, on a eu une parole de sagesse. Dieu nous dit quoi? Vous voyez, celui qui est fidèle à un peu de choses sera dans les grandes. Donc si dans les peu de choses Dieu t'a gardé, dans les grandes choses sera toujours avec toi aussi. Ne pense pas que le combat est trop grand pour toi. Non, non. C'est-à-dire, en fait, c'est la saison du plus grand témoignage. C'est tout. Fais-lui simplement confiance. Le combat n'est pas au-dessus de toi. Il n'est pas possible. Il dit, ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces. Il n'y a aucun démon qui peut s'attaquer à ta vie qui est plus fort que la force que Dieu a mise en toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, cessez d'être des enfants de Dieu autodépendants. 1, 2, 3, pasteur. 1, 2, 3, pasteur. Non. Regarde ton voisin, dit, j'ai la puissance de Dieu en moi.
J'ai la vie de Dieu en moi.
Alléluia. La troisième chose qu'il faut évoquer en secret, c'est évoquer ton alliance. Par ta nouvelle identité. Tu évoques ta nouvelle identité ou ton alliance. Ta nouvelle identité ou ton alliance. Tu évoques ça. D'accord? Faut apprendre à te dire à toi-même, dans ta chambre, avant de sortir, rappelez que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que ça va? Rappelle-toi, tu es un enfant de Dieu. Que le diable le sache. Vous savez quoi? Laissez-moi vous dire ceci, calmement. Le diable va toujours essayer de ramener le combat dans le naturel. Il sait que chaque fois que le combat est dans la sphère du surnaturel, vous êtes gagnant. Alors subtilement, il va venir chuchoter à ton oreille pour te rappeler que tu es noir. Si ça ne marche pas, il te rappelle que tu es embêté et vous n'êtes pas aimé. Enfin, du moins pour le moment. D'accord? Maintenant, si tu t'appelles Bakari ou Amidou, il va te dire tu n'es pas le vrai Amidou. Il y a toujours quelque chose. Il va toujours te dire quelque chose. Si tu es en blanc, il va te dire non, si tu étais en Afrique, ça aurait été meilleur. Tu es un Africain, il te dit, si simplement tu étais en Belgique, ça aurait été meilleur. Il y a toujours quelque chose que le diable essaie de te faire croire. Est-ce que tu comprends? Et souvent, il te fait croire simplement que non, si simplement ta femme était la choriste, c'était meilleur. Est-ce que vous comprenez? Donc, le diable va toujours essayer de te sortir de tes réalités pour t'amener à autre chose. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Mais dis à Satan, tu es un menteur. Car je sais à qui j'ai cru. Je suis fils de Dieu. Je suis fils d'Abraham. Alléluia.
Amen.
Laissez les gens divaguer et discourir. Ton père était maudit et a malédiction dans ta famille. Et puis quoi? C'est bien la raison pour laquelle tu es né de nouveau. Est-ce que vous me comprenez? Personne dans la famille ne se marie. Tu sais, on a jeté un sort à tout le monde. Alléluia. C'est bien pour ça que je suis là. Pour démontrer à ma famille que c'est ça, ça ne marche pas n'importe où. Amen. C'est très important. C'est très important. D'accord, il faut donc se souvenir que ton combat n'est pas fait avec la chair. Ne combat jamais avec tes armes. Jamais. Jamais et jamais. David, dans 1 Samuel 17, verset 45, rappelle au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée. Il était géant, il y avait des armes, la lance et le javelot. Et moi, dira-t-il, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Laissez-moi vous donner cette parenthèse. Est-ce que vous savez que chaque fois que le diable vous attaque, c'est une insulte à Dieu? Je m'arrête là. Je veux que tu comprennes. Est-ce que tu sais que chaque fois que le diable t'attaque, il insulte Dieu? Dieu dit de quelqu'un, c'est la prunelle de mes yeux. Dieu dit de quelqu'un, c'est mon sacerdoce royal. Dieu dit de quelqu'un, c'est ma demeure. Dieu dit de quelqu'un, c'est mon choisi et mon élu. Et toi, maintenant, tu t'attaques à la personne. Qu'est-ce que tu fais? Tu insultes Dieu. Donc, chaque attaque contre ta vie est une insulte contre Dieu. Donc, tu ne peux pas réagir avec la chair. Le combat n'est pas tien. Il a dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Je déclare que le diable va manger la poussière devant toi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas oublier ça. Évoque ton alliance. Évoque ton alliance. L'évocation de ton alliance libère une protection surnaturelle. Évoque ton alliance. Regardez par exemple, quand on a eu cette guerre en Côte d'Ivoire, d'accord? Vous avez vu ce qui s'est passé avec les Français? Vous avez vu des hélicoptères descendre dans des coins, exfiltrer en français et l'amener? Et puis les Ivoiriens sont à côté, ils lèvent la main comme ça pour dire, vous n'êtes pas concernés, on récupère le français, on s'en va. Vous n'avez pas vu les Américains qui ont été téléportés pour amener de l'autre côté? Et les Ivoiriens étaient là, à la merci de tous les rebelles qui entraient dans la ville. Très bien, mais si ces royaumes terrestres peuvent déployer des machines comme celle-là pour sauver les leurs, à plus forte raison le royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? À plus forte raison la puissance de Dieu. Le diable ne pourra pas t'atteindre. J'ai dit, il ne pourra pas. Évoque simplement ton alliance. Chaque fois que vous appelez votre alliance, les anges descendent. Quand vous dites, je suis le fils de Dieu, les anges disent, quoi? Un fils de Dieu est ici? Ils descendent. La Bible dit, l'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le craignent. Quand tu évoques l'alliance, tu déploies le service des anges. Vous n'êtes jamais seul. L'armée qui se tient auprès de nous est plus grande que celle qui est dans le monde. Évoque ton alliance. Alléluia. Amen. Évoque ton alliance. Ensuite, garde tes regards levés. Point numéro 4, sur Jésus. Lève ton regard sur Jésus. Beaucoup d'enfants de Dieu marchent avec les yeux sur Moïse. D'autres marchent avec les yeux sur le pasteur. Moïse, le symbole de la loi. Le pasteur, le symbole de la mauvaise interprétation. Garde le regard sur Jésus. L'auteur et le consommateur de ta foi, comme Hébreux 12, verset 25 le dit. Hébreux 12, 2 plutôt. Ok, garde ton regard sur Jésus. Garde ton regard. Bien-aimé, tu n'es pas devenu ce que tu es parce que tu as eu un diplôme à Harvard ou à l'université de Cocody. Tu n'es pas sauvé parce que tu as payé de l'argent. Mais quelqu'un est mort à la croix pour ta vie. Il a donné son sang pour ta rédemption. Garde le regard sur Jésus. Oh pasteur, je ne suis pas si fort que ça, ce n'est pas grave. C'est pour Jésus le savait. Il est mort à cause de tes faiblesses. Garde tes regards sur Jésus. Oh non pasteur, est-ce qu'en le disant, tu n'es pas en train d'encourager les faibles? Non, je suis en train de les fortifier. L'apôtre Paul a dit, sa grâce seule me suffit. C'est quand je suis faible que je suis fort. Pourquoi? Parce que mes regards sont sur Jésus. Lève ta main droite et dis, Jésus, merci.
Jésus, merci.
À cause de toi seul.
À cause de toi seul.
Je suis ce que je suis.
Tu m'as racheté.
Tu m'as sauvé.
Tu m'as distingué.
Après m'avoir délivré. Je suis libre. En Jésus-Christ.
Mon sauveur.
Amen.
Amen.
Et amen.
Alléluia.
Quelle liberté, amen. Alléluia, amen. Je suis libre. Alléluia, amen. On est libre en Jésus. Point numéro 5. Cinquième arme, utilisez le sacrifice de louange. J'ai un problème avec certains d'entre nous. Right? Sacrifice de louange. Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Rappelez-vous Pierre, Paul et Silas, en prison, à minuit. Rappelez-vous, au milieu de la nuit, tandis qu'on était sûr que le lendemain, on allait les mener au jugement. En pleine nuit, Paul et Silas ont chanté des louanges. Bien aimé, ces louanges s'appellent des sacrifices de louanges. Il y a une différence qu'à la fin du mois, tu commences à danser, Dieu est bon, parce que tu as eu ton salaire. Vous avez déjà observé qu'à l'église, en début de mois, les pas de louanges sont souvent un peu les meilleurs. Et qu'à partir du 25, les gens sont un peu plus lourds à danser. C'est parce que les réalités des fins du mois rattrapent. Les mauvais gestionnaires de leurs finances. Il est important que nous comprenions que la louange n'est pas simplement fonction de la bonté de Dieu manifeste, mais de la révélation que nous avons de lui. Même si je n'ai pas vu sa bonté, je le loue parce que je crois qu'il est ce qu'il est. Donc vous ne pouvez pas être à l'église et simplement danser à l'église. Apprenez à danser dans vos maisons. Marie et femme, demande à ta femme, demande à ton mari, où est ta louange à Dieu? Les gens qui ne louent pas Dieu n'ont pas de cœur pur. Parce que la louange dégage une atmosphère sur ta vie qui te permet de garder ta pureté et te garde comme un enfant auprès de Dieu. La louange te libère de l'orgueil et te permet toujours de voir Dieu comme étant la personne qui mérite l'honneur, la seule. Il n'y a pas besoin d'être un chanteur. On a beaucoup de chanteurs dans nos assemblées, très peu de chantres. Ce n'est pas l'exaltation de la chair ou la tournure, okay, de la manière de danser. Ça n'a rien à voir. C'est comment est-ce que ton cœur s'exprime à Dieu. Même si ta voix est comparable à celle d'un crapaud. Chante calmement à Dieu dans ta chambre. Des mélodies. Et vous voyez, tu n'es pas obligé simplement de chanter parce que ça a déjà été composé. Mais bon, ce n'était pas une révélation de nouveau chant. Tu chantes ce qui est composé. Parce qu'il vit... Je n'ai rien à craindre, mais lendemain, oh, sont assurés, oh, entre ses bœufs, oh, Jésus tient ma paix, c'est en éternité, je sais qu'il... Vous voyez, quand vous imaginez vous-même seul, à la maison, seul, fermé, il n'y a pas de voisin, il n'y a pas de voisine, tu es seul dans ta chambre, seul dans ton bureau, seul dans cet endroit, et tu chantes à Dieu parce qu'il vit. Vous savez, il y a une telle atmosphère qui descend dans cette chambre. Parce que tu crois qu'il vit. Et là, tu demandes à tes adversaires qui te regardent que tu sais, que tu sais, que tu sais qu'il vit. Et quand les choses semblent être compliquées, plus de doute, plus de doute, plus de doute. Oh oui, plus de doute, plus de doute, plus de doute. Oh oui, plus de doute, plus de doute, plus de doute. Plus de doute, plus de doute, plus de doute. Mon loyer n'est pas encore payé. Mon mari n'est pas encore entré. Oh, mes enfants ne sont pas encore sauvés. Oh oui, mais plus de doute, plus de doute, plus de doute. Oh, plus de doute, plus de doute. Amen. Est-ce que vous comprenez? Bernadette vient de se marier à 25 ans alors que moi j'en ai 40. Oh éternel, je viens simplement célébrer ton nom. Eh oui, plus de doute, plus de doute, plus de doute. Parce qu'à un certain moment, il faut être sincère. Quand tu dis plus de doute, ton cœur a mal. Plus de doute, plus de doute, plus de doute. Parce que c'est le sacrifice de louange. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est le sacrifice de louange. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, c'est important d'apprendre à apporter à Dieu des sacrifices de louange. Et dites-moi vous-même, vous avez un enfant à qui vous avez peut-être pas donné ce qu'il a demandé. Et un matin, vous le trouvez à la sortie de votre porte, quand vous sortez, il commence à chanter vos cantiques en disant, j'ai le papa le plus merveilleux, j'ai la maman la plus agréable. Dites-moi quelle est votre attitude. Honnêtement, si votre enfant se comporte, quelle est votre attitude? Et si vous n'avez pas, vous serez tellement embarrassé. qu'on serait même prêt d'aller emprunter pour satisfaire cet enfant. Voilà. Mais Dieu ne manque de rien. D'accord. Celui qui le loue, amen, voit sa faveur. Donc c'est très important d'apporter des sacrifices de louange. Ensuite, il faut aussi apprendre, point numéro 6, à parler en langue. Ribo sakatarebe, ribo konsoto riba kandarababa. Si tu n'as pas parlé en langue, si tu ne sais pas parler en langue, il faut voir le pasteur ou les pasteurs pour qu'on prie pour toi. Le parler en langue est un don gratuit de Dieu. Il faut parler en d'autres langues. Regardez ce que l'apôtre Paul dit de parler en langue à 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc si je parle en langue, je m'édifie moi-même. Qui s'est déjà retrouvé dans des situations où, honnêtement, il a eu peur? Moi, d'accord? Ça peut nous arriver, d'accord? D'avoir peur. Mais quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Et la Bible dit aussi, dans 1 Corinthiens 14, verset 2, que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais c'est à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Ça veut dire quoi? Quand tu parles en langue, tu ne sais pas ce que tu dis. D'accord? Il y a peut-être un problème, peut-être une oppression, mais tu ne sais même pas comment prier. Ribo, saendere, andakabo, okobo, yakatarababo, sarababaria kandaraba. Donc il y a des moments où quand tu parles en langue, comme ça m'est arrivé hier dans le bureau, un moment il y a une pression intérieure. Ça peut dire abori mindakaberia kataobo ine. Mais tu ne sais pas ce que tu dis. Mais le Saint-Esprit intercède en ta faveur. Et si tu es attentif aux directions de l'Esprit, il te fera savoir ce pourquoi tu as prié. D'accord? C'est très important de le comprendre. C'est très important de le comprendre. Donc, le parler en langue joue un rôle important. Je me rappelle, cette attaque, je n'ai jamais oublié. Et pour moi, parler en langue, c'est l'un des meilleurs témoignages que j'ai dessus. J'étais dans un hôtel. Et j'étais au Cameroun, venant de la Côte d'Ivoire. Et tout de suite, je sens une oppression diabolique dans ma chambre. J'ai appris à marcher avec Dieu. Si je salue un frère et qu'il a une présence diabolique, je peux le ressentir au contact, rien qu'à le toucher. Je n'ai pas la température physique. Je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je peux regarder quelqu'un et puis dans le regard, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vois tout de suite l'état de l'âme pendant son regard. Je peux arriver dans une pièce ou dans une maison et dès que je suis dans la maison, je regarde, je sais que là, cette maison n'est pas simple. Les habitants peuvent ne pas savoir, mais il y a une présence diabolique. Dans ma chambre d'hôtel, je l'ai ressenti dès que je suis entré. Mais on m'attendait, en fait. Le monde occulte m'attendait. Donc on m'attendait dans la chambre. La programmation, l'horloge diabolique était arrivée là. Je mourrais dans la chambre. On allait dire, il est mort par crise cardiaque dans sa chambre. Cela ne m'arrivera jamais.
Amen.
Toi aussi.
Amen.
Parce que quand c'est moi, ton amen est fait. Pour toi-même, Dieu, un bon amen. Heureusement qu'il est fait à chacun selon sa foi. Heureusement. Amen, vous comprenez de quoi je parle. J'ai commencé à parler à la ribondo, ribababa. Bien aimé, je vous garantis qu'après 10 minutes, je ne t'aidais plus. J'étais couché. J'ai demandé la grâce de Dieu. J'ai demandé la grâce de Dieu. J'ai parlé en langue affaiblie, mais je ne lâchais pas. Souvent, ces combats ne sont pas aussi faciles que je le décris en prêchant. Vous comprenez? Ça m'est arrivé deux fois de frôler la mort, mystiquement. L'autre fois, j'allais remettre les diplômes. Je suis tombé dans ma chambre, je commençais à rendre le sang. De partout, il y avait des orifices de mon corps, le sang sortait. On m'a amené à l'hôpital. Quand on m'a posé sur le brancard, ma fille, les médecins ont regardé. Ils ont dit, on va le garder pour moins 7 jours. Je devais partir rendre les diplômes le soir à 14 heures. Et à midi, j'ai été frappé dans ma chambre. À l'hôpital, à 13 heures. Le verdict est sorti, mais 13h15. À 14 heures, j'étais en train de ramper sur la rue pour rentrer à la maison. Ce n'est pas une affaire facile, mais j'ai dit non, je ne me laisse pas faire. Riboko chatare meberia kandarababa. Rokoko paya katarababa. Ok? Quand j'ai parlé en langue dans ma chambre ce jour-là, j'ai vu le tableau. Dans une tombe, on a mis une photo. On a mis un cercueil. On a écrit mon nom en bas de la tête d'un bouc. Et à l'intérieur, c'était moi. Le Seigneur m'a montré. Il m'a dit, voilà, on t'a enterré. j'étais encore vivant. Il y a des gens, vous les voyez, ils viennent à l'église, sont habillés, on les a déjà enterrés. Mais si tu entres ici, quand tu sors, ils vont te déterrer. Ils vont te déterrer. Ils vont te déterrer. Laissez-moi vous expliquer ceci. Quand je me tiens là, je n'ai pas besoin de prier pour toi. Quand ton homme porte l'onction de Dieu et qu'il parle, qu'il relâche dans les airs, ce qui est rattaché à ta vie est touché par les paroles qui sont relâchées. Et le Dieu m'a dit, retour à l'expéditeur. J'ai ordonné que celui qui a mis ma photo, mon nom dans cette tombe, qui a mis mon nom de l'autre côté, qui m'a sacrifié au royaume des ténèbres, qu'il parte à ma place. Deux semaines plus tard, la dame concernée est morte d'un mal de tête anodin. À l'hôpital. Pof, elle est décédée. Je savais qu'elle allait mourir. Power pass power. Les puissances se dépassent. Lève ta main droite. Dis power pass power. La puissance se dépasse. Et j'ai la puissance élevée. Alléluia. Alléluia. Et apprenez, point numéro 7, à confesser la parole. Éphésiens 6, verset 17. Déclarez la parole. Marie, prophétisez la parole dans vos maisons. Ouvrez le frigo, appelez la viande. Parlez dans la maison. Ne soyez pas là à regarder pour dire on n'a pas d'argent, ça n'a rien dit. Parlez, parlez dans la maison. Appelez, prophétisez la parole. Mettez la main sur vos têtes. Quand vous sentez que l'onction est descendue ou pas, parlez sur vous. Est-ce que vous me comprenez? Bien-aimé, je mets la main sur ma tête, je prophétise en disant Raoul, tu vivras longtemps. Quand mon ventre a commencé à dépasser ses frontières, j'ai maté l'oppression par la parole prophétisée sur mon ventre. Il faut comprendre une chose, il faut déclarer la parole. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Déclarez la parole sur vos enfants. Aucun démon ne les habitera. Ce ne sont pas les maisons du diable. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne soyez pas là pour me dire, oh, pasteur, bénis mon enfant. Oui, je mets la main sur ton enfant, il ne peut pas être drogué. Ton amen est important. Amen. Je vous dis ceci, Jésus a dit, laissez venir les enfants qu'on les bénisse. Amen. Quand un homme ou un touche la tête de ton enfant, tu ne sais pas ce qui se passe. Amen. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie de cette personne. Amen. On n'est pas à l'amphithéâtre. Est-ce que vous me comprenez? Amen. On n'est pas venu voir un comédien. Amen. On est dans la présence de Dieu. Amen. Citez la parole qui est l'épée de l'esprit. Prophétisez. Parlez sur votre corps. Interdisez l'entrée de votre corps par un démon. J'ai découvert que nous avons l'autorité, ma fille. Jésus a dit, sors de ce corps et n'y entre plus. Les gens chassent les démons, ils n'interdisent pas leur entrée. Je peux mettre la main sur toi et je dis, un démon n'entre pas. Même si tu vas te coucher au cimetière, il n'entre pas. Parce qu'un ordre a été donné. Le royaume des cieux fonctionne sous l'autorité. Amen. Quand on relâche l'autorité, ça marche. Amen. Est-ce que ça va? Tu dois mettre tes mains, mets maintenant tes mains sur ta tête. Déclare sur ta propre vie, bois Raoul ou faux. Je ne suis pas une habitation du diable. S'il y a un démon qui a fait une intrusion dans mon corps, je déclare qu'il parte. Sors d'ici. Sors, 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 feu, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est très important. Est-ce que ça va? Maintenant j'envoie le feu sur la base stratégique de Satan contre ta vie au nom de Jésus. Ça veut dire que si on a mis un canari quelque part, il est brûlé maintenant. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si on a cité ton nom quelque part, les barres sont détruites au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Plus de féticheurs. Tu n'as plus le droit. Plus jamais je suis un féticheur. Toi qui me regardes, plus jamais. Est-ce que vous êtes avec moi? L'autorité nous a été donnée. Prophétisons la parole de Dieu. Parlons de cette parole. Et vous allez voir ses œuvres. Ensuite, oh, j'aime ce point. Point numéro 8. Dis, pasteur, parle. Mon âme est bénie. Révèle-moi ta parole. Communique-moi ta foi. Alors, dis-le bien, dis-le bien. Dis, communique-moi la foi. Amen. Invoquez le sang de Jésus. invoqué le sang de Jésus. Ben, qu'en est-il d'un enfant de Dieu qui s'est vraiment retrouvé dans le péché? Qu'en est-il si un enfant de Dieu a fait ce qui n'était pas bien? J'ai entendu des doctrines qui disent le diable va te frapper. Le diable va te tuer. Le diable va te faire ci. Mais ça, ce n'est possible que si tu n'as pas appris ce que je vais t'enseigner. Le sang de Jésus est là effectivement pour ceux qui peuvent avoir un problème dans leur marche. Et je veux rappeler ce que j'ai dit dimanche passé. Le péché n'est pas simplement la mauvaise chose que je fais. Mais c'est aussi la bonne chose que je ne fais pas. Peut-être au moment où je parle, Dieu a mis à ma soeur de me faire un chèque de 5 millions. Ça arrivera un jour. Est-ce que vous comprenez? Et elle dit, ah non, moi j'ai mes business, je ne donne pas au pasteur. Vous comprenez ce que elle a dit? Ah. Donc, vous comprenez de quoi je parle? Donc c'est une manière de parler. Mais l'instruction qui est donnée par Dieu est en ordre. Écoutez, hier j'étais en train de méditer la parole de Dieu qui allait chez mon coiffeur. Et voici ce que Dieu me dit. Il me dit, fils, est-ce que tu as déjà vu la Bible comme ça? Il me dit, qu'est-ce que j'avais demandé à l'homme de faire dans le jardin? Et oh, l'ordre que tu avais donné, c'était de ne pas manger de fruits. Mais est-ce que vous savez que c'est faux? Dieu n'avait pas donné pour ordre de ne pas manger seulement le fruit. Mais le premier ordre était, sois fécond. Donc on est focalisé sur l'interdit, on oublie le requis. Il a dit, sois fécond, multiplie, assujetti, rempli et domine. Donc le premier ordre donné était, sois fécond. Donc ne mange pas du fruit d'arbre, c'était secondaire. Mais le requis était, sois fécond. Donc l'homme qui n'accomplissait pas le mandat de fécondité était en train de pécher. Parce qu'un ordre lui était donné, sois fécond. Ça a changé ma façon de voir la Bible. Hier, je suis passé à une classe supérieure. J'ai une révélation nouvelle. J'ai dit, waouh, papa, j'avais pas compris ça. Comment? J'ai dit, oui. Parce que vous dites, j'avais donné un seul ordre à l'homme. Non. Non. Quand il dit, sois fécond, c'était un ordre. J'ai dit, sois fécond. Relâche le potentiel qui est en toi, c'était un ordre. Vous voyez? Donc, s'il arrive donc que je transcende l'ordre et que je ne fais pas ce que Dieu m'a demandé, comment je me comporte? Tu appelles le sang. Regardez ce que la Bible dit en ce qui concerne le sang de l'agneau. La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause de quoi? Donc très bien, il est important d'invoquer le sang. Le sang de Jésus établit une barrière infranchissable entre ta vie et les forces des ténèbres. Il faut couvrir ton âme du sang de l'agneau. Couvre ton corps du sang de l'agneau. Couvre-toi du sang de l'agneau. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, regardez en Égypte. Il y a eu combien de plaies? Il y a eu combien de plaies? Officiellement, combien de plaies? 10 plaies. Très bien. Donc, ne compliquons pas la Bible. 10 plaies. D'accord? Ok. Quelle est la plaie qui a libéré le peuple? C'est le sang sur le poteau et les linteaux. Les 9 premières plaies ont été falsifiées. La 10e était terrible. Le peuple est sorti à cause du sang. Donc même si le diable a résisté sur les autres points d'en haut, quand le sang est évoqué, il capitule. Il n'y a rien d'autre que le sang. Rappelle à Satan, souviens-toi de ce sang versé à la croix pour moi. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Il faut invoquer le sang. Invoque le sang. Quelle merveille le sang de l'agneau. Il réduit au silence le pouvoir du péché. Car Jésus est devenu péché afin que tout devienne justice de Dieu. Donc le sang réduit au silence la voix du péché. Parce que le sang est la base de ta justification. Maintenant, je vous pose une question. Quels sont ceux qui ont des enfants dans cette salle? Madame Apouti, dis-moi. Ton enfant a déjà fait quelque chose à la maison une fois? Ton enfant a fait quelque chose une fois à la maison? Est-ce qu'il est devenu un singe? Il est devenu un chat? Un oiseau, une perdrix? C'est toujours resté un enfant. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'un enfant de Dieu qui a commis une faute devienne un démon? Vous voyez, le vrai problème, c'est que nos fautes ne change pas notre nature. Non, tu es un enfant de Dieu. Donc, ce n'est pas un péché dans ta vie qui change ta nature. Le péché peut donner une porte d'entrée à l'ennemi pour nuire à ta vie. Mais il nuit à la vie d'un enfant de Dieu. Le péché ne fait pas de toi un enfant du diable. Quand on est né de nouveau. Alors certains prédicateurs déséquilibrés dans la compréhension des Écritures, c'est pourquoi quand on est pasteur, même appelé par Dieu, il est important d'être intellectuellement assis, spirituellement éclairé et puis doctrinalement équilibré. C'est très important. Je parle de sortir de sa chambre en soi et dire Dieu va donner tes révélations. Non, il faut équilibrer les Écritures par l'intellect. Donc l'intelligence nous permet de comprendre les choses de Dieu. Ah non, vous là, vous allez devenir les enfants de Satan si vous avez péché. Non, non, non. Mes petits-enfants, si quelqu'un a péché, Dieu parle à ses enfants. 1 Jean 2, 1. Mes petits-enfants, si quelqu'un a péché, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un avocat. Dis à ton voisin, appelle ton avocat. Encore appelle ton avocat. Vous voyez pourquoi les pays civilisés ressemblent un peu plus au royaume des cieux? Aux États-Unis, quand on veut t'amener à la justice, on oblige que tu aies un avocat. Parce que la condamnation de quelqu'un sans son avocat peut remettre en cause le verdict. Donc il faut que l'avocat soit présent. Donc ne règle pas tes affaires sans ton avocat. Appelle ton avocat. Alléluia. Que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise amen. Donc sur le point numéro 9, appelle ton avocat. Il faut appeler ton avocat. Si tu as péché, appelle ton avocat. Maintenant, mon fils, s'il te plaît, viens. Viens. Écoute-moi très bien. D'accord? Regardez ici. Regardez. Ok. La Bible dit le juste tombera combien de fois? S'il vous plaît. Combien de fois?
7 fois.
Combien de fois?
7 fois.
Et se relèvera combien de fois?
7 fois.
Imaginons dans ce jeune homme. Tom. Je n'ai pas dit de nous faire tomber tous les deux. Hein? D'accord. Il est tombé, n'est-ce pas? Il est tombé. Généralement, les gens disent, quand il a commis le péché, il est tombé. Mais tomber là ne veut pas dire fornication, adultère, c'est péché. C'est tout le péché. Est-ce que quelqu'un comprend? Il tombe, 7 fois, il se relève. 7 fois. Donc, il se relève, 1 fois. Et il retombe. Et il se relève. Et il retombe. Et il se... Comment tu te sens le fait de tomber et de te relever tout le temps? Ça t'embête toi-même, n'est-ce pas? Très bien. À un certain moment, s'il continue, même quand on va t'en la main pour le relever, il va dire non, je suis fatigué, je vais rester là. Est-ce que vous comprenez? Donc, le fait de dire aux enfants de Dieu que Dieu pardonne ne peut pas donner à cet enfant de Dieu l'envie de tomber. Heureusement, c'est sur le tapis. Hein. Dans d'autres églises, tu fais ça quand il se lève, là, c'est compliqué. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Maintenant, il se relève. D'accord? Il s'est relevé. Maintenant, suivez-moi bien. Je vais demander à la sœur de venir. S'il te plaît, viens. Tombe. Alors, elle vient et elle le voit à terre. Elle collabore avec le diable. Et le diable commence à dire, il est à terre. D'accord? Et elle va dire à tout le monde, il est à terre. Elle va raconter, tel est à terre. Mais entre-temps, il s'est relevé. Et elle continue de parler de celui qui était à terre. Est-ce qu'il est toujours à terre?
Non.
Elle va s'attarder sur son passé. Et elle va tout faire pour lui dire, je te connais, tu n'as aucune valeur, tu étais à terre. N'est-ce pas? Mais lui, est-ce qu'il est à terre?
Non.
Ce n'est pas parce qu'il était à terre qu'il est à terre. Est-ce que vous me comprenez? Il s'est relevé. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans sa position debout, est ce qu'il compte devant Dieu. Pas celle couchée. Maintenant, un nouveau converti, quand il tombe, il met 1 semaine avant de se relever. Souvent, il pense qu'il faut faire une offrande sacrificielle. Souvent, il pense qu'il doit changer d'église. Souvent, il pense que son pasteur n'est pas loin. Souvent, il pense que c'est une malédiction du village. Souvent, il pense que c'est un démon. Bien-aimé, vous ne pouvez pas voir, un homme ne peut pas voir une femme qui est belle. Et puis, voir que c'est une belle femme et penser que c'est les démons qui voient pour qu'elle est belle. Est-ce que vous voyez un peu les doctrines? C'est pas la femme est belle, elle est belle. C'est pas un démon. Non, pasteur, elle a les esprits des autres. Pourquoi est-ce que... Vous comprenez? Non, non. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Mon problème est là. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les enfants de Dieu sont toujours prompts à mettre le diable dans ce qui est bon? Non, non, elle a les... non, c'est pas une question d'esprit des eaux. Celui qui est en toi est plus grand. Même si une femme a l'esprit des eaux, tout le dedans, et que toi tu as l'esprit de Dieu, qui est plus fort? Mais pourquoi tu as été dérangé par les eaux? Au lieu que ce sont les eaux qui soient dérangées par toi, toi tu es dérangé par les eaux. Quel est ton problème? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Non, c'est Jézabel, c'est... Non, c'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur. La fille s'est habillée, même si, même, imaginons même qu'elle ait mise tout dehors. Mais si tu étais fort, pourquoi tu es dérangé? Pourquoi tu paniques quand tu sais en qui tu as cru? Est-ce que ça va? Faut pas faire les lois. Alléluia. Oh, alléluia. Non. Amen. Amen, il y a un problème dans l'âme. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Amen. Dis, je règne dans la vie.
Je règne dans la vie.
Encore, je règne dans la vie.
Je règne dans la vie.
C'est pour ça que Jésus a dit, nous régnons dans la vie par Christ. Pas à l'église, dans la vie. Ça veut dire que dans ton bureau, tu auras des jeunes filles qui vont mettre des trucs jusqu'ici. On est en démocratie, dans le monde des libertés. Elle peut mettre même le voile comme habit. Mais, bien aimé, tu ne vas pas dire que tu vas devenir fou parce qu'elle a porté son voile. Est-ce que vous êtes avec moi? Eh hey, non, non, non. Pas, il faut que je voyage avec ma femme. Si je ne voyais pas avec ma femme, j'aurai un problème. Si toi, tu as un problème, vas-y, voyage pas avec ta femme, tu as un problème grave. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Ça devient des... Et on accepte des doctrines erronées, mensongères. Pourquoi tu ne peux pas être fort? Si tu jeûnes et que tu vas au restaurant, la dernière fois, je jeûnais, j'ai pris le révérend Adam, quand on est allé au restaurant. Il s'est assis, il a pris son poulet braisé. Il a mangé, j'étais en face de lui, serein. Il me dit, mais tu m'aimes? J'ai dit, non, il n'y a pas de problème. Je jeûne, je suis conscient que je jeûne. Ta nourriture ne me dérange pas. Au contraire, c'est la preuve que je jeûne. J'ai regardé manger, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas avalé la salive un seul moment. Parce que j'ai pris la résolution de ne pas manger. Le vrai problème, c'est la décision que tu prends. Laisse tomber les affaires des esprits des eaux. Toi-même, tu es embrouillé dans ton âme. Faut te retrouver. Est-ce que quelqu'un, est-ce que ça va? C'est ça le problème. Imaginez un pasteur réunit ses assistants ici, habitants. Il dit, vous voyez, le pasteur là, il fait ses panneaux toutes les années, c'est la séduction. Il est en train de séduire les femmes. Eh! Vous comprenez de quoi je... Ça dit, je dis, mais c'est pas possible. Comment est-ce que quelqu'un peut raisonner comme ça? Vous comprenez? Ça veut dire, on ne peut pas être renouvelé par Dieu, avoir de telles pensées. C'est même pas possible. Au lieu de voir l'impact, la transformation, l'influence, toi tu vois la séduction. Et vous allez vous rendre compte que ceux qui passent de la table, attention, ne pêchez pas, le boule diable, eux-mêmes ils ont les deux pieds dedans, entrés dedans. C'est ça le problème. Amen, il faut faire attention. Quel est ton problème, bien-aimé? Quel est ton problème? C'est comme un autre qui a dit à ces gars, il dit à ces mêmes assistants, vous voyez, vraiment les gens qui ont le pasteur au faux, tel autre pasteur, il roule dans les grosses voitures, vraiment, c'est pas la peine, est-ce que vous pensez que c'est biblique? Maintenant, plus tard, son église se réunit pour dire, il faut qu'on t'achète une voiture, et c'est, on achète une grosse voiture maintenant. Les mêmes voitures que qu'on a, on l'achète, là c'est plus un péché. Non, je n'ai pas choisi, c'est mon église qui m'a donné. Moi je suis allé le confronter, j'ai dit, mais tu roules une grosse voiture. Non, c'est mon église qui m'a donné. Tu ne pouvais pas refuser, R4 n'était pas là. Pourquoi tu as pris la grosse voiture? Ouais, est-ce que je veux dire, comprends ce que je veux dire? Donc les gens se cachent derrière des choses et comme le peuple veut entendre ça, non, parlez-nous. Pourquoi tu es toujours en train de vouloir qu'on te prêche un problème, le message sur le péché? Pourquoi? Si tu as un problème de péché, laisse-le. Parlons des choses importantes. Jésus a réglé la question du péché. Laisse le péché tranquille. Attache-toi à Dieu. Vis la vie de Dieu. C'est ça qui compte. Vis la vie de Dieu. Pourquoi tout le temps tu es là, il faut qu'on parle du diable? Pourquoi? Je ne comprends pas. Vous donnez trop d'importance à Satan. Vous oubliez qui vous êtes. Je suis un fils de Dieu. Combien vous ne pouvez pas passer toute la semaine à parler de Satan? Même pas une fois vous parlez de votre père. Arrêtons ces choses-là. Amen. Arrêtons ces choses. Dis à ton voisin, tu as bien compris. Arrête ces choses-là. Il faut arrêter ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Excuse-moi, mais à Abidjan, chez nous, on dit quitte dans ça. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parle? C'est important. Amen. C'est très important. Maintenant, le dernier point, le point numéro 10, demeurer dans la communion fraternelle. Oh, la communion fraternelle. Hébreux 10, verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Heureusement, à cette époque, c'était quelques-uns. Maintenant, c'est la coutume de plusieurs. N'abandonnons pas, Hébreux 10, 25, notre assemblée, comme c'est la coutume de plusieurs. C'est supposé être quelques-uns. C'est supposé être quelques-uns. N'abandonnons pas notre assemblée. Bien-aimés, la communion fraternelle, quand on est ensemble à l'église, levez-vous s'il vous plaît. S'il vous plaît, pasteur et responsable. Et quand on est là ensemble, et quand on se côtoie, regardez, tu parles à ton voisin. Ok? D'accord, très bien. Amen. Rien que la communion fraternelle, je vous garantis qu'en parlant de la sorte, avec eux, avec lui, on se côtoie. D'accord? On est ensemble. Quand ils repartent à la maison, la communion fraternelle, l'onction qui se dégage ici, préserve chacun d'entre nous de la chute. Donc il y a une vie qui se dégage. Donc vous ne pouvez pas être enfant de Dieu et ne pas aimer la présence des saints. La présence des saints est importante. Vous ne pouvez pas être infiltré par le diable quand vous êtes dans cette assemblée. Parce qu'il y a une notion corporative. Psaume 133, il est doux, agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu déverse son onction. Donc demeurer ensemble. Mais une heure dimanche ne suffit pas. Deux heures ne suffisent pas. Il faut venir en semaine. Appartenir à une cellule. Aller aux ambassades. Passer le temps dans sa présence. C'est très important d'aimer la présence de Dieu. Mais quand un d'entre nous a un problème et qu'il fuit cette présence, il commence à rechercher ce qui lui plaît et il devient vulnérable. Parce que le diable n'attaque jamais le troupeau quand le troupeau est groupé. C'est celui qui s'est éloigné qui devient la cible de Satan. Et notre rôle, c'est d'aller le chercher. Pour dire, mon gars, reviens, on sait qu'il y a un danger de l'autre côté. Remonte ici, reste avec les saints. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? D'accord? Lève avec la main avec moi, dis Seigneur. J'aime la communion fraternelle. Parce qu'elle me protège. Alléluia. Et je termine avec ceci, bien-aimé. Il y a ce problème de cure d'âme. D'autres églises disent, oh non, nous on n'en fait pas. On croit que si quelqu'un est de nouveau, il est déjà sauvé, il est déjà une nouvelle créature. Oui, c'est vrai, mais cette personne a besoin d'être aidée dans son âme. Romains 12, verset 2. La personne a besoin d'être aidée dans son âme. Alors la cure d'âme devient indispensable pour moi. Plus de 20 ans dans le ministère, je vous dis, un croyant qui fait la cure d'âme est stable dans sa marche. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que la cure d'âme est la recherche par le pasteur du bien du fidèle ou de la brebis, de son équilibre psychique et de son harmonie spirituelle par le biais de l'évangile. Donc je dois être psychiquement, c'est-à-dire dans mon mental, dans mon âme équilibrée par la parole. Donc je dois harmoniser mes points de vue avec l'écriture. Calvin dit ceci, la cure d'âme est une exaltation personnelle. Martin Luther, quant à lui, pense que la cure d'âme est la consolation et la conversion de l'âme. Donc si deux généraux comme eux, et Calvin, et Martin Luther partagent des points de vue aussi profonds, je vous garantis, la cure d'âme est très importante. Seuls ceux qui ne sont pas confrontés aux activités des démons, il y a des pasteurs qui ne savent pas chasser un démon. Hein. Et c'est quand d'ailleurs le fait que non, j'enseigne seulement, non, un pasteur doit chasser un démon. Il y a des gens qui ne savent pas chasser un démon. Quand vous n'avez pas encore vu quelqu'un qui est debout, sapé, commencer à ramper comme on ne sait pas, vous ne croyez pas que le démon existe. Les démons existent, bien aimés. Les démons sont là. Et chaque enfant de Dieu doit, pasteur surtout, enfant de Dieu armé pour chasser les démons. Donc quand tu es né de nouveau, on fait la cure d'âme. Je dois faire le scanner de ton âme. Savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'âme, d'où tu viens, quel est ton passif, comment est-ce que ton âme a été endommagée. Donc il y a des questions qui permettent de répertorier ton âme. Donc si le scanner ne montre pas bien, on prescrit une IRM. Donc enfin, un truc approfondi pour repérer tout ce qu'il y a dans l'âme. Maintenant je dresse un squelette de ton âme. Ayant clairement ce que ton âme est. Et en fonction de ça, je donne une prescription à quelqu'un. Je dis ok, tel pasteur, parle-lui de ça. Parle-lui de ci, parle-lui de ça. Enseigne sur ce domaine. Il a besoin de se retrouver psychiquement. C'est pas automatique, vous dites, demande soir, demande pas. Non, ça c'est la dernière arme. Mais rien que la parole enseignée permet au croyant d'être stable dans sa marche. Mais s'il ne connaît pas, par exemple, que se masturber peut être dangereux, que la pornographie peut être dangereuse, que le fait d'aller continuer de danser les trucs familiales en faisant des sacrifices est dangereux. Le croyant, dans l'ignorance, continuera d'ouvrir des portes. Mais la cure d'âme permet au don d'exhortation d'asseoir le nouveau croyant dans la connaissance de Dieu. D'accord? Et c'est très important. Très, très important. En lui montrant lui-même comment se tenir avec Dieu. Ça, c'est vital. C'est très vital. Mais si c'est compliqué, et que la personne dit, par exemple, toutes les nuits, à 3h du matin, un esprit m'oppresse, et qu'on a donné une recommandation, et que la personne, ça ne tient pas, on dit, ok, on passe à la vitesse supérieure. Maintenant, s'ils sont dedans, on va demander qu'ils partent. Ça, c'est le moins compliqué. Et là, on parle au démon, il part. Souvent, quand il part, la personne peut gesticuler. Souvent, il peut partir sans secousse. Le démon part. Et il ressent que quelque chose est parti. Oui, c'est important de le comprendre. D'accord? Ne soyez pas trop moderne dans les Écritures. Ne jouez pas les personnes snob. D'accord? Oui, tu es peut-être un grand ministre, un grand PDG, etc. Je te garantis que le démon ne respecte pas tes titres. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Et tu ne peux pas continuer de venir ici et il est assis à ta tête. Et il continue de t'oppresser, mais il est temps que ça s'arrête. Tu ne peux pas avoir écouté un message pareil et continuer d'être la cible de Satan. Lève ta main droite, dis, il est temps que ça s'arrête. Encore, il est temps que ça s'arrête. Je dois marcher libre. Car je suis appelé par Jésus et affranchi par Jésus. À partir d'aujourd'hui, monsieur le diable, monsieur les démons, je sais qui je suis et je sais en qui j'ai cru. Je prends la résolution de marcher dans la liberté que Jésus m'a accordée. J'ai été racheté à très grand prix. Jamais plus je ne serai sous le joug de l'ennemi. Car Raoul Wafo est véritablement libre. Je recouvre mon âme du sang de l'agneau. Et je déclare, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La protection de l'Éternel est sur ma maison, est sur mes affaires. Je suis béni et non maudit. La grâce de Dieu m'accompagne et m'environne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame mieux que ça.